L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Nous avons tous, toutes, des peurs. Mais est-ce que ce sont les bonnes peurs? Sous-entendu, est-ce que nous pouvons faire confiance à notre mental? Et ça, c'est une question qui est profonde, intéressante, et pour laquelle je reçois Albert Moukeiber, qui est un docteur en neurosciences et un psychologue. On avait déjà fait un épisode ensemble sur l'écologie et sur les raisons pour lesquelles on la mettait à distance. Aujourd'hui, on va se concentrer sur nos peurs, sur notre manière de fonctionner, la manière dont notre cerveau fonctionne. Moi, je trouve ça toujours passionnant, pardon de réutiliser ce mot à chaque fois, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc je vous laisse écouter l'épisode. Allez Volant, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Albert.
Bonjour.
Je suis ravi de te recevoir une seconde fois sur ce podcast. Et cette fois-ci, on va parler des peurs. Et en particulier de la rationalité des peurs. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à avoir peur des choses qui ne sont pas nécessairement les plus risquées et à l'inverse, ne pas avoir peur de choses qui sont extrêmement risquées. Je pense que l'exemple le plus connu, c'est sans doute la peur des requins dans la mer, alors qu'en fait, il y a très très peu de gens qui se font tuer par des requins et en même temps, des gens qui conduisent un peu n'importe comment sur la route sans se rendre compte qu'en fait, potentiellement, ils risquent leur vie tous les jours. Comment on explique cette peur qui est décorrélée de la réalité ?
En fait, c'est pas une question juste de peur, c'est plutôt une question d'évaluation du risque. On est relativement assez mauvais à évaluer les risques en général, pour plusieurs raisons. On n'est pas ce qu'on appelle des homo economicus, on ne mesure pas des choses de manière objective, on mesure les choses plutôt de manière relative. Notre cerveau souvent fonctionne de manière comparative. Et du coup, plusieurs filtres viennent s'intégrer dans un peu les équations d'évaluation de risque qu'on fait dans notre cerveau. Il y a un chercheur qui s'appelle Gerd Gigerenzer qui a beaucoup travaillé sur ces sujets. Et j'ai donné l'exemple des requins, mais lui, il donne l'exemple des avions et des voitures, par exemple. Tout le monde se souvient du 11 septembre, des attaques du 11 septembre sur le World Trade Center. Et après le 11 septembre, il y a eu une sorte de chute drastique de vols d'Américains qui utilisent des avions pour voyager. Entre, par exemple, je vais aller de New York à Washington, les gens disaient non, je ne vais pas prendre l'avion parce qu'il y a eu un attentat terroriste, je vais prendre ma voiture. Et ça a causé beaucoup plus de morts, d'accidents de la route. Alors que, par exemple, l'avion est beaucoup plus safe, beaucoup plus...
Ouais, sécurisé. En tout cas,
beaucoup plus sécurisé. En tout cas, il y a beaucoup moins de risques de prendre l'avion que de prendre la voiture. Mais d'ailleurs, Gerenzer, il pose cette question que je trouve très cool. Il dit combien est-ce que vous pensez que vous devez conduire de kilomètres en voiture pour que les risques soient les mêmes que pour prendre un avion? Combien de tours? Il y a des kilomètres, je sais pas. Et les gens, quand il fait ça dans ses conférences, les gens donnent des 1000 kilomètres, 5000 kilomètres, deux fois le tour de la planète, etc. Et sa réponse, c'est genre 10-12 kilomètres, en fait, le trajet pour aller de chez vous à l'aéroport. Ouais. Parce qu'une fois que c'est à l'aéroport, vous êtes là en sécurité. Parce que c'est beaucoup plus sécurisé, comme on disait. En tout cas, c'est beaucoup moins de risques de prendre l'avion que de prendre la voiture. Et ça, c'est par exemple, dans ce cas-là, c'est parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un biais de récence. Il y a eu l'attentat dans un avion. Donc, on se se dit on va éviter l'avion parce que c'est ce dont on se souvient. Et du coup, il y a plein de facteurs comme ça qui viennent biaiser la manière dont on évalue le risque. Ça peut être des biais de récence, ça peut être des biais de proximité. Combien est-ce que je suis proche d'une maladie ou d'une cause? Ça peut être combien est-ce que ça va se passer dans le temps? Combien de personnes peuvent mourir? Par exemple, je sais pas, sans rentrer dans le débat de l'énergie nucléaire versus les énergies fossiles, mais on a beaucoup plus peur d'un réacteur nucléaire qui a un problème et tue beaucoup de gens vite que des milliers de morts qui meurent lentement de la pollution due à la production d'énergie fossile. Et dans ce cas-là, c'est parce que s'il y a beaucoup de gens qui meurent d'une même raison, mais de manière étalée, on le voit moins que, par exemple, s'il y a beaucoup de gens qui meurent d'un coup ensemble. Même si la cause qui est en train de tuer beaucoup de gens de manière étalée peut être beaucoup plus létale en valeur absolue que quelque chose qui tue beaucoup de gens d'un coup. C'est pour ça qu'on est, par exemple, dans l'expérience qu'il décrit Guy Grenzer sur les avions et tout ça, il explique qu'après le 11 septembre, on a changé tellement de lois, on a mis des scanners dans les aéroports, on a même changé certaines libertés fondamentales, etc., etc., pour quelque chose qui a tué beaucoup de gens d'un coup, donc les attentats terroristes, mais on n'a pas du tout ces mêmes réactions d'urgence sur des choses qui tuent beaucoup plus de gens, mais de manière beaucoup plus étalée, comme, je sais pas, le réchauffement climatique ou la clope ou les maladies cardiovasculaires.
Complètement. Et est-ce qu'il y a un rapport entre nos deux cerveaux, c'est-à-dire le cerveau qu'on a dans notre tête et puis le cerveau qu'on a dans notre ventre, c'est-à-dire entre le rapport émotionnel et le rapport rationnel? Est-ce que ça peut avoir un impact? Parce que j'ai la sensation que l'émotionnel prend le pas parfois sur le rationnel.
Alors, je vais reformuler un peu la question, parce que une des choses sur lesquelles je me bats, c'est de ne plus séparer la rationalité et l'émotionnalité.
Alors,
c'est une sorte de division un peu stéréotypique. Je travaille sur un texte sur le sujet, donc je suis en plein dedans. En fait, nos émotions sont comme une boussole pour notre rationalité. C'est juste que quand on pense à émotions, on pense à certains types d'émotions qui, effectivement, peuvent biaiser ce qu'on considère notre rationalité dans ce cas-là, sans définir le mot rationalité, c'est-à-dire d'arriver à un risque absolu au lieu d'être tout le temps dans un risque relatif. Et effectivement, il y a certaines émotions, comme la peur, comme la récence, comme la quantité, comme machin, qui peuvent nous impacter. Mais on a besoin de nos émotions pour aussi être rationnel. Ça dépend juste de quelle émotion est-ce que j'utilise. Il y a des expériences sur des personnes qui ont ce qu'on appelle de l'alexithymie, c'est-à-dire une incapacité à ressentir des émotions ou à détecter les émotions chez les autres. Ils sont pas du tout rationnels, parce qu'ils ont plus de boussole. Donc, si par exemple, imagine que tu n'as pas d'émotion, je te dis ce truc que si tu le fais, tu vas mourir, tu n'as pas l'émotion de la peur qui va te dire non, ne le fais pas. Donc, tu ne vas pas non plus être plus rationnel. Du coup, la question devient quelles émotions modulent notre raisonnement, de quelle manière? Et effectivement, par exemple, les peurs irrationnelles ou les biais de science ou de récence, c'est-à-dire quelque chose qui se passe récemment, nous module beaucoup plus que quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, alors qu'il est peut-être plus dangereux ou bien de proximité.
D'accord.
Je vais avoir beaucoup moins peur d'Ebola si je vis en France que si je vis dans une partie du monde où il y a Ebola. Et dans ce cas-là, effectivement, certaines de nos émotions peuvent venir impacter négativement, j'ai envie de dire, notre capacité à évaluer le risque de manière qui soit appropriée au risque réel. Mais il y a d'autres émotions qui, au contraire, vont nous aider. Et c'est souvent pas les émotions qu'on croit. Par exemple, pour donner un exemple, un des biais les plus communs qui biaise négativement l'évaluation du risque, c'est le biais d'optimisme. On peut en parler maintenant avec l'épidémie dans laquelle on est. Je vais me dire, ouais, mais ça va, c'est mon pote, il a sûrement pas Covid, donc je me protège pas et mon optimisme peut me jouer ce tour, ou bien les accidents de voiture qui se produisent souvent à côté de la maison, j'arrive dans mon quartier et du coup j'enlève ma ceinture de sécurité en me disant c'est bon, je suis optimiste, il va plus rien se passer, c'est là où il y a des accidents, alors que le pessimisme peut des fois être au contraire une émotion qui peut nous protéger, c'est-à-dire en me disant j'ai peur d'avoir Covid, je vais peut-être prendre des précautions plus adaptées et du coup avoir moins de chances d'avoir le virus. Du coup, ça dépend vraiment dans quel contexte Parce que aussi, il y a des fois où il faut pas surévaluer le risque, et c'est là où on développe une sorte de trouble anxieux. Si je suis tout le temps en train de me dire, ah, bah, je vais pas sortir de chez moi, parce que si je sors de chez moi, il y a peut-être une voiture qui va m'écraser, ben, ça va être très compliqué à vivre. Et du coup, il faut tout le temps se demander, replacer ça dans un contexte. Quelle émotion face à quel stimuli? Une peur du noir, c'est pas la même chose, qu'une peur d'un lion, alors que je suis dans une forêt où il y a plein de lions.
Évidemment. Et alors, quand je parle des peurs, il y a plein de choses qui me viennent en tête. Parce qu'il y a, en ce moment, beaucoup de gens qui se disent, mais j'ai envie de changer de métier, ça n'a pas de sens. En particulier après cette année passée chez soi et je crois qui a fait des mouvements psychologiques chez un certain nombre de personnes. Il y a aussi cette peur de se dire, mais est-ce que vraiment je peux changer de métier? Est-ce que ça, c'est des peurs qui sont rationnelles? Non, pardon, alors du coup, je ne vais pas utiliser ce mot rationnel.
Non, on peut utiliser le mot rationnel, c'est juste qu'il ne faut pas l'opposer au mot émotion. C'est juste que nos émotions sont utiles à notre rationalité. En fait, on ne peut pas être rationnel sans émotion, c'est tout. C'est juste, la question, c'est quand on dit émotion, il faut spécifier de quelle émotion est-ce que je parle.
D'accord, ok, très bien. Par exemple, ouais, quand je veux changer de métier, ou alors qu'effectivement, on prend des risques qui sont beaucoup plus importants. Et typiquement, tu parlais de la cigarette, les gens qui fument et qui se disent, tu vois bien, jusqu'ici tout va bien, donc je vois pas pourquoi je mourrais. C'est comme si ça ne pouvait pas te concerner, en fait, quelque part.
Oui, ça arrive juste aux autres, c'est ça le biais un peu, cet optimisme. Je pense que ça arrive juste aux autres, quoi.
Très étrange, parce que la clope, on sait bien que statistiquement, ça tue, il n'y a pas de sujet. Et pourtant, les gens qui fument, a priori, ils n'en ont pas peur, ou en tout cas, ce n'est pas un élément suffisamment apeurant pour qu'ils arrêtent.
Ouais, je pense qu'on a parlé de ça la dernière fois que j'étais là, si je me souviens bien. C'est en fait, on parlait à l'époque du réchauffement climatique, c'est un peu la même chose, c'est que c'est tellement délayé dans le temps que on n'y pense pas. Et je pense que l'exemple que j'avais donné, c'est de dire si quelqu'un fume une clope et imagine que tu fumes une clope et je te dis genre une heure plus tard, tu as 1% de chance d'avoir un cancer, je pense que les gens ne fumeraient pas. Mais te dire tu as, je sais plus c'est quoi les chiffres, mais disons je sais pas 5, 10%, 20, je sais plus c'est combien, on va inventer un chiffre, donc ce que je dis n'est pas vrai, mais c'est juste pour illustrer, disons que c'est 10%, je te dis tu as 10% d'avoir un cancer dans 20 ans, ça semble ne pas vraiment impacter. Je pense que ça joue aussi un rôle dans le changement de carrière, dans le sens où c'est instantané quand je change, quand je démissionne, et mon salaire, ça s'arrête le lendemain. Après, ça dépend comment je démissionne. Mais genre, je vais avoir une sorte de perte instantanée. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on a ce qu'on appelle des choix par défaut. On a souvent tendance à surestimer le danger d'une situation nouvelle. Ce qui fait que, mécaniquement, on préfère rester sur ce qu'on a que aller sur quelque chose d'autre. Après, quand est-ce qu'on change? C'est quand ce qu'on a devient plus dérangeant que le risque potentiel de où on veut aller. Et ça appelle aussi des théories de dissonance cognitive, etc. Si par exemple, moi, je sais pas, je suis quelqu'un qui est profondément anticapitaliste et je bosse dans une banque, au bout d'un moment, dans une banque d'affaires ou dans une banque d'investissement, au bout d'un moment, la dissonance interne que je ressens va forcer un changement. Ce changement pourrait être soit je deviens moins anticapitaliste, soit je me dis je peux être anticapitaliste, mon métier ne me définit pas et je continue à faire mon métier, donc je change le sens, soit je change mon action et je quitte mon boulot et je fais autre chose. Il y a plusieurs manières de résoudre ces dissonances cognitives, et selon nos évaluations du risque, selon nos émotions, selon notre rationalité, on peut soit changer l'action, du coup je quitte mon boulot, soit changer le sens, du coup je me dis ça va, mon boulot c'est pas ça qui me définit, soit changer mon opinion et me dire c'est pour les ados quoi, l'anticapitalisme, là il faut que je mûrisse un peu et que je devienne de droite.
Effectivement. J'ai entendu sur le podcast Hidden Brain une expérience clinique que j'avais trouvée hyper intéressante sur un test, donc sur cette rationalité et sur cette capacité à se tromper dans le risque, potentiellement en tout cas. Et c'était l'idée, c'était de dire combien tu es prêt à payer, on te donne 20 euros, et combien tu es prêt à payer à, pour ne pas perdre les 20 euros, sachant que si tu donnes 1 euro, par exemple, tu as X% de chance de le perdre, et si tu donnes Y euros, tu as 0 de chance de perdre. Donc en fait, tu te rends compte que généralement, pour 20 euros, les gens sont pas prêts à prendre beaucoup de risques. Par contre, s'il s'agit d'une décharge électrique, les résultats sont très différents. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont quasiment prêts à payer plus que 20 euros pour pas se prendre la décharge électrique, en fait. C'est très étonnant. Enfin, je sais pas si c'est très clair quoi, dans la manière dont j'explique.
Oui, je connais l'expérience.
Peut-être que tu peux mieux l'expliquer que moi, d'ailleurs. Mais...
en gros, il montre que perdre 20 euros, les gens sont prêts à beaucoup moins payer, mais une décharge électrique, les gens qui ont 1% de chance d'avoir une décharge électrique et les gens qui ont 90%, en gros, il y a deux groupes et on leur dit combien est-ce que vous êtes prêts à payer. Pour un groupe, vous avez 1% de chance de perdre vos 20 euros. Pour un autre groupe, vous avez 90% de chance de perdre vos 20 euros. Et le groupe qui a 1% de chance, très rationnellement, est prêt à payer beaucoup moins que le groupe qui a 90% de